Radio Notre-Dame, la vie prend un sens. En quête de sens, Marie-Ange de Montesquieu.
Un divan, un psychanalyste silencieux au regard fixe et dédaigneux dans un bureau fermé et capitonné. C'est peut-être l'image que vous avez d'un psychothérapeute. Sauf qu'en 2019, un travail sur soi ou thérapeutique ne veut plus dire uniquement séance à huis clos. De plus en plus, de thérapie et autres accompagnements invitent le patient à sortir du cabinet pour se libérer de ses chaînes intérieures. Que ce soit par le corps, les émotions ou les deux à la fois, aujourd'hui c'est un peu à chacun sa thérapie. La gestalt thérapie en fait partie et sort même jusque dans la rue à la rencontre des personnes en détresse psychique. Quand la psychologie sort du cabinet, c'est au menu de cette émission avec trois spécialistes. Bonjour mesdames.
Bonjour.
Trois invités habitués, on peut le dire, à cette émission. Je commence par vous, Séverine Bourguignon. Vous êtes artiste plasticienne et gestalt-thérapeute et vous êtes donc à l'initiative des fameux écouteurs de rue dont on va parler évidemment aujourd'hui.
Tout à fait.
Bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour Chantal Masquelier, qui est à ma droite. Bonjour à vous. Vous avez coordonné le grand livre de gestalt-thérapie chez Erol.
Oui.
C'est un peu l'œuvre de votre vie. Enfin, en tout cas, pour l'instant, la grande œuvre.
Une des grandes œuvres. C'est-à-dire que c'est une œuvre collective. C'est ça qui la spécifie.
Tout ce qui compose la gestalt-thérapie. Et puis à ma gauche, Yolande Dufayet de la Tour. Alors vous, vous êtes titulaire du certificat européen de psychothérapie. Vous êtes coach, vous avez créé Arborescence en 2006. Vous accompagnez individuellement des personnes en difficulté professionnelle et ou personnelle. Et puis vous intervenez aussi au sein d'associations et administrations pour proposer de la médiation et de la supervision de pratiques. Vous êtes également l'auteur de C'est le bazar et c'est tant mieux, la gestalt pilier de l'engagement en entreprise, paru en 2017.
Oui, merci, mais c'est aussi un ouvrage collectif.
Et c'est également un ouvrage collectif, absolument. Alors, première question, effectivement, pour nos auditeurs qui ne seraient pas forcément très familiers avec toutes ces thérapies, c'est vrai qu'ils fleurissent, les ouvrages également. La psychologie du 21e siècle n'est plus celle de Freud et de Lacan, on est d'accord. Enfin, plus seulement. Je m'adresse d'abord à vous, Chantal Masquelier.
Oui, je crois qu'il y a un tel besoin de lien et de se sentir faire partie d'une humanité que la posture classique du psychanalyste rebute certains. Et la posture des gestalt-thérapeutes est beaucoup plus dialogale, en contact, en présence, et le thérapeute s'implique dans la relation thérapeutique, ce qui fait la différence avec d'autres approches, effectivement.
Alors, la gestalt-thérapie, comment on peut le traduire? C'est vrai qu'on en parlait en préparant un peu l'émission avec vous, Yolande Dufayet de la Tour. Qu'est-ce que ça veut dire exactement quand on n'y connaît rien? Qu'est-ce que vous répondriez à cette question pour commencer?
Bon, c'est toujours une question un peu difficile parce qu'il faudrait faire de longs développements. La gestalt-thérapie s'intéresse en fait à la personne dans son environnement. Ça, c'est facile à comprendre, c'est pas trop technique. Comment la personne, en fait, interagit avec ce qui l'entoure. Et on va regarder comment elle intègre aussi dans sa vie différentes dimensions, qui incluent évidemment la dimension corporelle, comment elle est de elle à elle, comment elle exprime ses émotions, est-ce qu'elles sont bloquées, elles sont fluides, est-ce qu'il y a des émotions plus que d'autres, elle est plutôt triste ou plutôt en colère. On va s'intéresser à comment elle est dans son environnement social et familial, c'est-à-dire son lien à l'environnement. On va regarder quel est son lien à la spiritualité.
La spiritualité également. Oui.
On va regarder en fait l'être dans toutes ses dimensions. Alors, on dit de manière un peu pompeuse peut-être, voilà, c'est une thérapie qui a une visée holistique. C'est-à-dire, on va s'attacher à ne pas la séparer parce qu'on fait l'hypothèse que ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent, il y a une partie qui lui appartient. Mais il y a une partie qui appartient à son environnement. Mmh. Et en fait, c'est le rapport entre les deux qui va être intéressant à regarder.
Mmh. Alors, Séverine Bourguignon, vous allez... Alors, dans la rue, c'est vrai qu'on peut imaginer... Au début, j'ai cru, quand j'ai lu un petit peu écouteurs de rue, dans ma tête, tout de suite, il m'est venu à l'écoute des sans-abri. Mais c'est pas ça. C'est-à-dire, c'est vraiment une démarche de sortir du cabinet. Oui, c'est ça, hein, les écouteurs de rue.
Oui, l'année dernière, j'ai passé 4 mois dans la rue pour un projet artistique.
Donc j'étais sur une friche urbaine qui était ouverte, et le fait d'être comme ça disponible, j'ai pu avoir, faire des tas de rencontres et recueillir aussi des témoignages. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un besoin d'être là, d'être présent et de pouvoir accueillir ce que les gens avaient à dire. Ils étaient paniqués, il y avait des gens qui s'étaient perdus parce que ils avaient des maladies, ils étaient vieux, et d'autres qui venaient parce qu'ils cherchaient un endroit où aller particulier. Il y a eu divers cas, des gens qui venaient juste témoigner, demander ce que je faisais, et je me suis dit peut-être que ce serait intéressant d'être vraiment là, pas pour moi faire quelque chose puisque j'étais quand même active à ce moment-là, j'avais un projet à mener, mais simplement pour pouvoir écouter les gens. Mais j'ai rendu ça concret cette année, pas seule, puisque c'est encore beaucoup du collectif. Donc j'ai demandé à d'autres gestalt-thérapeutes ou d'autres praticiens corporels aussi, parce que je me dis que c'est peut-être intéressant d'avoir des pratiques corporelles, c'est-à-dire de la pratique Feldenkrais là, ou du shiatsu, des gens qui font du shiatsu qui sont présents parmi les écouteurs et qui ont déjà travaillé par exemple sur du stress avec des personnes dans la rue. Donc l'idée, c'est vraiment d'être dehors, assis sur une chaise, avec une chaise en face, pour que les personnes puissent venir s'asseoir.
Et les gens s'arrêtent vraiment ?
Et les gens s'arrêtent vraiment. Alors, selon où on se trouve, il faut aller chercher les gens en leur expliquant ce qu'on fait. Mais là, la dernière écoute qu'on a faite, c'était un endroit où il y avait énormément de passages et on n'a rien eu besoin de faire. Il y a une bâche qui dit « ici, on vous écoute », qui explique, qui dit oreille bienveillante, écoute gratuite, on se parle. Donc, les gens lisent les panneaux et en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure à Chantal Masquelier, c'est que la curiosité humaine est telle que les gens viennent aussi et demandent. Et voilà, ils sont de passage. Mais qu'est-ce que vous faites? Ça m'intéresse. Ou je suis curieuse, racontez-moi. Et c'est spontané.
Alors, vous souhaitiez réagir, Chantal Masquelier. J'allais vous dire, ça paraît presque aberrant, pardonnez-moi, de dire ici, on écoute comme si on n'écoutait vraiment plus dans notre société.
Oui, je crois qu'il y a un besoin d'être écouté et de se sentir en lien. Et on a assisté à ce mouvement des Gilets jaunes en le réduisant peut-être à quelque chose de réactionnel et de contre la société. Mais ça n'est pas que ça. Sur les ronds-points, les gens ont trouvé du lien social, se sont rencontrés, ont pu se parler. Et ça ressort, par exemple, dans le film de François Ruffin, « Je veux du soleil », où on voit bien que le besoin essentiel des gens, c'est d'être ensemble et de se sentir faire partie d'une humanité. Et c'est proche de la vocation de la gestalt-thérapie à son origine, où on a un de nos fondateurs qui s'appelle Goodman, qui était très sensible à cette relation de l'homme dans l'environnement et qui disait « transformation de l'individu et transformation de la société vont de pair, on ne peut pas faire l'un sans l'autre ». Donc cette intrication entre l'individu et le monde social dans lequel il est pris en compte dans notre approche de la gestalt-thérapie. Et c'est très spécifique.
Quelque chose qui s'est perdu, vous le constatez dans vos expériences, justement, en entreprise, notamment, Yolande Fayet de la Tour.
Alors, c'est
des connexions, en somme.
C'est-à-dire que ce qu'on peut nous observer en tant que psy, c'est que ce qui est structurant, en fait, pour l'identité, c'est plusieurs choses. Et on pourrait dire qu'il y a certaines approches thérapeutiques qui vont s'intéresser à l'intrapsychique. Et puis, il y a ceux qui vont s'intéresser plutôt à l'interrelationnel. On pourrait dire que nous, la gestalt-thérapie, on se situe dans ce courant de la relation. C'est la relation qui soigne. Ce n'est pas des techniques, ce n'est pas des savoir-faire, c'est la relation. Et tout à l'heure, on parlait, je pense qu'on reviendra là-dessus dans l'émission, l'histoire de la présence habitée. Et c'est ça que les gens viennent chercher, c'est-à-dire une écoute où il n'y a pas de jugement, mais la personne est vraiment là. Alors, être là, qu'est-ce que c'est? On va en parler.
Qu'est-ce que c'est?
Mais pour revenir à l'entreprise et à d'autres espaces, oui. Puisque je travaille par exemple à la Maison des Familles de Boulogne-Billancourt, qui est un espace social dont l'emblème est « Ensemble, tissons du lien », c'est qu'en fait, les gens ont besoin d'appartenance. L'appartenance, appartenir à un groupe, à des groupes, c'est structurant pour la personne. Alors, je sais qu'ici, à Radio Notre-Dame, vos auditeurs parlent beaucoup de la famille et on a raison de parler de la famille, petite unité de société qui constitue la base de la société, mais pas que. Le travail, c'est une unité sociale structurante pour les personnes. D'ailleurs, on voit bien que quand il y a le chômage, on y passe beaucoup de temps et quand les gens sont au chômage, C'est vraiment désintégrant pour eux. Le club de sport, l'église, les églises sont des structures d'appartenance et sont des structures structurantes de l'identité. C'est comme ça que on se construit de soi à soi, mais on se construit surtout de soi à l'autre et de l'autre à soi. C'est-à-dire cette espèce de danse entre la personne et son environnement, c'est ça qui va l'aider à grandir. Et tout organisme, on peut le voir d'une manière plus globale, et c'est ça un peu l'intuition de nos fondateurs. C'est qu'en fait, les espaces sociaux entre eux rentrent en dialogue, se structurent les uns par rapport aux autres, et tout ce maillage en fait de la société permet à l'homme de vivre, on va dire, sainement. On n'a pas de normalité chez nous, mais en tout cas dans un espace où sa liberté, son bien-être vont trouver leur plein épanouissement.
Et pourtant, on vit dans un monde extrêmement individualisant, oserais-je dire, Séverine Bourguignon. C'est vrai que cette notion de groupe, parfois, peut paraître contraignante pour les êtres individuels que nous sommes. Non ?
Alors, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas cette vision. Elle est contraignante parce que bien, il faut organiser, structurer. Et puis, il y a des personnes qui vont aussi donner une direction générale. Moi, je ne la trouve pas spécialement contraignante. Après, c'est ma propre représentation du monde. Je trouve aussi que quand il y a trop de différences, c'est-à-dire c'est trop clivé, là, peut-être, on va vers trop d'individualité. Il faut remettre un peu de groupe aussi, réapprendre à faire avec les contraintes. On parle de ce monde, enfin on parle des enfants là qui n'ont pas de limites ou d'adultes hein, qui arrivent sans. Ben finalement apprendre à faire avec le groupe, moi je trouve que c'est extrêmement positif et structurant.
Et justement dans la rue, vos expériences, vous me disiez que vous nous racontiez que vous attendiez sur une chaise, enfin les thérapeutes qui sont dans la rue etc attendent effectivement les patients. On peut parler peut-être de patients là, peut-être oui. Que le
moi,
terme
des
peut
écoutés,
être...
voilà.
Ça peut se passer en groupe ou pas?
Ça pourrait. Je pense qu'il y a plein de propositions possibles. Là, on démarre. Après, je crois aussi que l'idée, c'était vraiment des écouteurs de rue, c'était de rendre accessible aussi la santé mentale. Parce que moi, c'est vraiment une grande préoccupation. Je me dis, j'ai eu la chance, parce que tout gestalt thérapeute commence par faire un travail personnel, et j'ai eu la chance de pouvoir le faire parce que justement j'étais en entreprise, je gagnais correctement ma vie, et j'ai pu me l'offrir, j'ai pu faire ce choix, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peut-être aimeraient faire cette démarche et en ont pas les moyens. Donc il y a des structures qui existent, comme l'APSOS, les psys du cœur, où on peut faire des démarches à moindre, ou les CMP.
Oui. Les psys ne coûtent plus de 100 euros, j'exagère. Non, l'heure.
On peut parler d'autres expériences comme celle d'une association qui s'appelle Psy du Cœur, qui effectivement organise des permanences dans des quartiers sensibles. Et ils se mettent dans des lieux publics et ils accueillent par des permanences d'accueil le tout venant, sans engagement, ponctuellement, sans argent. Et cette démarche est complètement libre et rend accessible le soutien thérapeutique. On ne peut pas parler de psychothérapie, mais ça peut donner un tremplin qui permettra aux gens éventuellement de faire une démarche vers la psychothérapie ailleurs et autrement. Mais pour ça, il faut aussi que les acteurs sociaux comme toi ou les acteurs psy comme tu es, Séverine, soient en relais eux-mêmes avec d'autres structures de la santé mentale, que ce soit les travailleurs sociaux, que ce soit les structures psy, les CMP, les CMPP, pour pouvoir faire relais. Et si l'individu n'est pas tout seul, il ne faut pas que la structure soit toute seule non plus et s'isole. C'est un travail en réseau.
J'aimerais vous demander, Chantal Masculier, les fondateurs de la Gestalt Thérapie seraient contents de voir ce que fait, par exemple, Séverine Bourguignon? Je vous demande ça avec une pointe d'humour.
Je pense que Goodman serait enchanté. notre amie Perls, qui a fondé la Gestalt Thérapie, était très rebelle contre les institutions, contre l'État, contre la norme. Mmh. Il avait ce côté libertaire, mais qui était peut-être un peu réactionnel. Je pense que Goodman était plus dans une, comment dire, dans une articulation entre l'individu et le social, comme tu le disais, Yolande, et qu'il serait enchanté de voir les gestalt-thérapies, les gestalt-thérapeutes descendre dans la rue comme tu le fais.
Mmh. Alors, Yolande Dufayet de la Tour, quelle est la chose la plus récurrente que vous observez comme type de souffrance, par exemple, dans vos cellules d'écoute à Boulogne ou en entreprise? Est-ce qu'il y a quelque chose de convergent dans toutes ces souffrances ambiantes?
C'est une question difficile. Mmh. Bon, peut-être que je n'aurais pas cette prétention à dire qu'il y aurait des souffrances récurrentes, parce qu'on les prend les unes après les autres sans les comparer, en fait, et sans les mesurer. Toute souffrance mérite un intérêt. Alors, si on reste sur la thématique du lien social, ce que je peux voir, par exemple, à la Maison des familles de Boulogne-Billancourt, où on s'attache à tisser du lien, et le père Quéterer, qui est donc l'aumônier de cette maison, a un peu donné comme mission de travailler sur ce qu'il appelle les lignes de fracture. Voilà. Et donc, un peu, je pense, dans la ligne, on va dire, du pape François, qui disait qu'il voulait que l'Église soit un hôpital de campagne et qu'on aille aux périphéries. Hein, je crois que c'est ce... Si je me permets de le citer comme ça de mémoire, je crois que c'est à peu près ça qu'il a dit. Et donc, dans cet état d'esprit, la Maison des familles va aller sur des thématiques difficiles. Alors, les auditeurs le savent, parce que je suis venue plusieurs fois ici en parler, de la thématique des personnes homosexuelles et donc de leur famille, puisque c'est à la direction des parents et des proches. Mais on s'occupe aussi des personnes qui sont en espérance d'enfants. On s'occupe aussi des couples en difficulté. On s'occupe du lien entre les mamans et les bébés. On s'occupe du lien avec un collègue gestalt-thérapeute. On est sur un projet d'un parcours de formation et de partage entre les pères sur le thème de la paternité du masculin et leurs enfants. Et donc, il s'agit d'aller par ces biais-là, d'aller effectivement tisser du lien, c'est-à-dire remettre l'homme en contact avec son environnement pour qu'il y trouve ses propres ressources. On ne se voit pas en tant que gestalt-thérapeute comme un orthopédiste qui viendrait corriger quelque chose.
Et bien, je vous propose de poursuivre cet échange juste après cette petite pause.
En quête de sens, 01 56 56 44 00.
Bonjour, ici Edith Walter, l'agenda musical. Je vous retrouve pour vivre la musique avec ceux qui la font. Qu'ils soient pianistes, violonistes, violoncellistes, flûtistes, clarinettistes, chefs d'orchestre, metteurs en scène. Ils vous parleront de leur prochain concert, de leur dernier disque, de l'opéra qu'ils vont diriger. Et ils vous diront aussi leur joie, leur espoir, leur solitude, leur réussite, leur passion, leur amour de la musique qu'ils souhaitent partager avec vous, ainsi que cette musique que nous écoutons ensemble.
L'agenda musical avec Edith Walter, tous les vendredis à 20h45 sur Radio Notre-Dame.
Si vous n'emportiez qu'un seul livre en vacances, prenez « Osez entrer dans la vie éternelle » de Pierre-Marie Varenne. Guidez chaque jour pour prier et méditer avec la parole de Dieu, l'art et la musique, vous allez redécouvrir la beauté sublime de votre raison d'être. Une retraite spirituelle bouleversante à faire chez soi, une heure par jour, pendant 7 jours. « Osez entrer dans la vie éternelle », un livre, 2 CD par Pierre-Marie Varenne, en librairie et sur magnificat.fr.
Bruno Courtois, directeur général de Radio Notre-Dame.
À la demande d'un grand nombre d'entre vous, nous avons refondu notre page de dons en ligne. Avec un formulaire plus facile à remplir et une navigation très simple, faire un don en ligne est devenu aussi facile que d'écouter la radio. Et c'est tant mieux, car le don en ligne nous permet d'optimiser nos coûts de fonctionnement. Alors je vous invite à vous connecter sur radionotredame.com, rubrique « Aidez-nous » et vous remercie d'avance pour votre générosité.
En quête de sens, Marie-Ange de Montesquieu.
Et nous sommes toujours dans Quête de sens dans la rue avec des psychothérapeutes. En tout cas, la psychologie sort du cabinet, c'est le thème de cette émission. Nous étions en train d'échanger avec vous, Yolande Dufayet de la Tour, justement sur ces souffrances que vous entendez qui remontent à vos oreilles au fond au quotidien. Et vous parliez avant aussi, dans cette première partie d'émission, de la présence habitée. Alors je laisserai ensuite réagir Séverine Bourguignon. Qu'est-ce que ça veut dire en gestalt thérapie. Ou alors, c'est peut-être de vous, cette formulation.
Non, non, c'est pas de moi. On a des racines, on va dire, philosophiques hein, qui se prennent leur naissance dans la phénoménologie. Mais on va dire des choses un peu simples pour l'ensemble de vos auditeurs. C'est que comment on peut être là de manière entière, non pas dans un rôle, mais comme personne. Alors comme personne avec des émotions, avec des sensations, avec des idées, avec des rêves, avec des images, c'est-à-dire de manière entière. Et c'est ça qu'on va offrir à notre client. Alors, je vais le faire par opposition pour que les auditeurs comprennent, c'est-à-dire qu'on a l'image de la psychanalyse où le psychanalyste est derrière le patient et où il ne parle pas. Donc nous parlons, on est dans une posture dialogale. Et puis, je vais laisser Chantal en parler parce que c'est son grand sujet, l'histoire du dévoilement et de l'implication contrôlée du thérapeute, c'est ce dont on parle. C'est-à-dire, c'est comment on va aussi donner au patient quelque chose de nous. Parce qu'on part du principe, c'est la relation qui soigne. Donc, on va donner, alors on ne donne pas tout, on ne donne pas n'importe quoi. On va donner des choses qui vont aider le patient. Mais si le patient sait, par exemple, qu'à l'écoute de son histoire, ça nous met en colère, peut-être ça va l'interpeller sur le fait que peut-être on sera la première personne qui va enfin être en colère au sujet de son histoire. Et ça va l'aider à progresser. C'est ça, la présence habitée.
C'est ça, c'est une sorte de reflet... Oui. De nos états émotionnels, c'est ça, Chantal Masculi?
Oui, on parle de caisse de résonance, qu'on serait comme la peau d'un tambour qui vibre à ce qui se passe dans la situation. Donc, on se sert de notre éprouvé pour communiquer quelque chose de ce qui est en train de se passer au patient. Et ça crée une situation nouvelle pour lui, parce qu'il n'est pas habitué à ce qu'on raisonne ou réagisse à ses émois. Et cette caisse de résonance peut amplifier ou accompagner ce qui est en train de se passer et mettre le doigt sur des choses qu'il n'avait pas conscientisées. On parle dans cette présence habitée d'une faculté d'awareness. Ça, c'est dans notre charabia, c'est l'awareness, c'est cette forme d'attention à ce qui est en train de se passer, et cette attention est très sensorielle. On capte ce qui se passe avec notre corps, avec nos sensations, avec nos émotions, et on s'empêche d'aller trop dans le mental et dans l'interprétation. On est là complètement physiquement présent.
Alors, j'ai envie de vous poser une question que j'aurais dû poser en début d'émission à toutes les trois. Pour quel type de pathologie consulte-t-on un gestalt-thérapeute au fond?
Toutes les pathologies, toutes les souffrances, je dirais, plus que les pathologies.
Toutes les souffrances, oui. Vous utilisez plutôt ce terme. Oui. Ma question était plutôt celle-ci. Finalement, est-ce que c'est plutôt adressé à des personnes qui auraient du mal à se connecter avec l'environnement et leur corps? Est-ce qu'il y a une histoire un peu comme celle-là?
Pas forcément.
Ou à leurs émotions?
Pas forcément. Je pense que nous pouvons accueillir toute personne qui se dit dans un mal-être. Ça ne veut pas dire qu'on va donner un bien-être absolu, mais il y a peut-être un regard sur l'homme qui va pouvoir s'auto-réguler et trouver un équilibre. Donc, il y a peut-être des gens qui, au contraire, sont trop dans l'extraversion et auront besoin d'un endroit pour se poser, pour sentir ce qui se passe, plutôt que de se précipiter. Ça, c'est une des pathologies actuelles, hein, l'hyperactivisme qu'on décèle chez les enfants, et d'avoir un endroit où on va pouvoir lâcher prise, c'est tout aussi important qu'un endroit pour s'exprimer d'une manière extravertie.
Notamment la rue, Séverine Bourguignon, c'est ça? Ça, c'est aussi un moyen c'est presque par hasard finalement qu'on tombe sur des thérapeutes dans la rue. Donc oui, j'imagine qu'effectivement...
Pour l'instant, c'est par hasard. L'idée, c'est de pérenniser quand même ce dispositif et de rendre du fait que les gens vont pouvoir savoir qu'il y a des rendez-vous et venir nous rencontrer. Il y a déjà des demandes. C'est-à-dire sur des personnes qu'on a déjà rencontrées, ils demandent où est-ce qu'on peut vous rencontrer à nouveau. Donc là, on a fait l'expérience. Ça, c'est très gestaltiste aussi de faire l'expérience, c'est-à-dire voir, ne pas dire, parce qu'on peut imaginer beaucoup de choses, faire l'expérience, ça évite de l'imaginaire, on rentre dans quelque chose de plus concret. Et là, on a fait l'expérience que ça fonctionnait. Et le pérenniser, c'est aussi permettre de donner des nouveaux rendez-vous.
C'est-à-dire qu'effectivement, oui, on peut imaginer que c'est one shot, hein, oui. pour parler vulgairement, et qu'après, il n'y a pas de suivi, effectivement, thérapeutique.
C'est ça. Non. Là, c'est pour ça qu'on précise que c'est quand même une écoute. Et on parlait du dévoilement. Le dévoilement, là, c'est d'être visible dans la rue, à nu, sans cabinet. Cette toute-puissance du thérapeute, elle est un petit peu amoindrie dans le fait qu'on est sur des chaises, on est un peu exposé. Et les gens viennent nous voir. Donc là, le dévoilement, il se passe ici, celui du thérapeute. Moi, mon envie, c'était de montrer que les thérapeutes, c'est des gens qui sont bienveillants, accueillants, chaleureux.
Sachant, quoi.
C'est ça. Voilà. Mmh. Et pas forcément des personnes impressionnantes. Mmh. L'idée du jugement, c'est vrai que moi, je suis très réceptive à ça. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes, même qui imaginent qu'on sait déjà, qu'on lit en eux, qu'on connaît leurs pensées, qu'on va pouvoir leur dire à leur place. Et vraiment, la gestalt-thérapie aussi...
C'est l'angoisse d'avoir un psychanalyste à un dîner. On dit toujours, voilà. Ça y est, il va nous décrypter, de scanner.
Sujet supposé savoir.
La posture du gestalt-thérapeute, c'est non interprétative. C'est le client qui va nous guider et qui va savoir. C'est aussi notre objectif d'être avec lui, de l'accompagner pour qu'il puisse se révéler à lui-même, finalement.
Allons droit au but, Yolande Dufayet de la Tour. Comment se passe une séance type de gestalt-thérapie?
Ah. Alors, la spécificité, c'est qu'il n'y a pas de séance type. À l'inverse de certains de nos confrères qui ont des protocoles, on va dire ça comme ça, nous, on n'a pas de protocole, on n'a pas de technique. On pourrait dire que chacun vient avec aussi, enfin chacun au sens, chaque thérapeute vient aussi avec sa propre histoire et donc il va travailler avec sa propre histoire. C'est pour ça aussi que la gestalt-thérapie, mais comme d'autres collègues aussi, s'attache à ce que le gestalt-thérapeute ait lui-même fait un travail. Parce qu'en fait, c'est à partir de son propre travail thérapeutique qu'il est en présence de l'autre. Pour revenir à la présence habitée, alors la présence à l'autre et la présence auprès de l'autre, c'est une manière d'être avec sa propre histoire, mais sans que sa propre histoire fasse écran à l'autre, c'est-à-dire éviter des projections abusives, c'est-à-dire par exemple j'ai été mère seule, ah oui je connais le problème des mères seules, oui. Ben non, je connais pas le problème des mères seules parce que je ne connais pas le problème de cette femme-là qui est en face de moi. Donc la gestalt vraiment résonne de cette manière-là, c'est-à-dire qui j'ai en face de moi de manière spécifique et comment je résonne avec elle, c'est-à-dire que en face d'une certaine personne seule avec un enfant, peut-être qu'elle va m'agacer prodigieusement. Peut-être que celle d'après, qui va venir dans la même situation sociale, va au contraire me toucher. Mmh. Ça raconte, moi, l'autre, et ce qui se passe entre nous. Et c'est ça qu'on va toujours travailler, qu'on va toujours regarder. Mmh. Donc, en fait, on n'a pas un protocole. Et tout ce qu'on apprend dans nos études et qu'on continue à apprendre après dans la supervision, c'est comment je fais avec ma propre histoire, et donc avec ma propre histoire, avec l'histoire de l'autre. Et c'est ça qui va donner la spécificité. Alors après, il y a évidemment quelques techniques que Pearls nous a transmises, qui sont issues du théâtre, des choses comme ça. Mais en chaque thérapeute a sa couleur. Il y a une chose dont on n'a pas parlé.
Oui.
C'est que la gestalt-thérapie a aussi des racines, on va dire, dans le courant existentialiste. Donc on va beaucoup travailler sur la responsabilité. Donc on va dire qu'on a plutôt des thèmes de prédilection plutôt que des techniques. Et donc, dans nos thèmes de prédilection, on a la liberté et la responsabilité. On a le thème de la finitude et donc les questions de sens, de l'absurde. Et là, on peut être entraîné sur le terrain des spiritualités, des religions, des croyances. On a... Aide-moi Chantal, dans les contraintes existentielles, c'est notre jargon.
Moi, j'appelle ça l'incomplétude, la finitude.
Les problèmes avec l'imperfection, c'est-à-dire, et on le voit beaucoup dans notre société, où on est dans le toujours plus, dans le fait, notamment dans l'entreprise, aussi. L'obsession de la perfection et de la performance, c'est un vrai sujet. Et puis, le problème de arrêter, c'est-à-dire s'arrêter et que quelque chose est terminé. Il y a beaucoup de gens qui vivent très, très mal la fin. Donc voilà, on a des thèmes un peu comme ça, comme l'agressivité. On a une vision un peu particulière de l'agressivité, on la voit de manière assez positive. C'est-à-dire, c'est un peu le sens du titre de notre livre, C'est le bazar et c'est tant mieux, oui. C'est-à-dire une valorisation du chaos comme condition préalable à une transformation. Accepter qu'il y ait du chaos. Et donc quand les gens viennent nous voir, accepter qu'ils viennent avec leur propre chaos et ne pas se précipiter immédiatement pour soigner, pour corriger. Accepter que les personnes sont en vrac Elles sont pas bien et ça va durer un certain temps. Et finalement, c'est pas en se précipitant immédiatement en voulant leur faire aller mieux qu'on va vraiment les aider à aller mieux.
Alors, oui, alors je vous passe le relais, Chantal Masquelier. Comment ça se passe concrètement une fois que la personne effectivement vient avec son chaos? Comment ça se passe? Comment se marche?
Je voudrais rebondir à ce que dit Yolande avant, c'est qu'effectivement, non seulement c'est utile d'aller dans le chaos, on a quand même un présupposé, c'est que les accompagner dans le chaos va permettre une transformation. Alors que de se hâter à vouloir les soigner, guérir tous les problèmes, là, c'est les remettre dans une norme et qui risque de les faire culbuter de nouveau. Donc, on est beaucoup plus dans accompagner la souffrance et la tristesse éventuelle et la peine et la colère que de vouloir la transformer. Et magiquement, presque, de les accompagner dans ce qui est fera qu'ils pourront trouver d'autres manières de gérer leurs émois et ce qui se passe. Plutôt que de vouloir les corriger, si vous voulez. On n'a pas du tout cette vision normative de la santé.
J'ai envie de vous raconter une histoire qui m'est arrivée il y a une trentaine d'années. J'étais assistante sociale et avec le recul, je me dis que c'était très gestaltiste. À l'époque, je ne l'étais pas. J'étais donc assistante sociale et je donnais des bons alimentaires toutes les permanences pour les gens qui venaient me voir, les gens de la rue. Et puis, un monsieur qui vient et qui me raconte son histoire, donc on pourrait dire un SDF aujourd'hui, il me raconte son histoire et je me laisse l'écouter. Et je savais qu'il venait pour demander un bon de 50 francs à l'époque. Et puis, tout d'un coup, j'ai fait quelque chose qui n'est pas du tout orthodoxe quand on est dans ce cadre-là. En fait, j'ai pleuré et j'ai laissé couler mes larmes. Mais vraiment, j'étais très, très, très émue de son récit. Et il, après avoir raconté son histoire, il était tout troublé. Et il me regarde dans les yeux et il me dit « Jamais personne n'a pleuré devant moi à l'écoute de son histoire ». Et en fait, il est sorti de mon bureau. Alors, je me souviens encore de cette attitude physique. Il était debout, droit, comme un homme libre. Et il est parti. Et il m'a dit merci. Il était vraiment dans son merci. Il était très chaleureux, très fort. Et c'est qu'en ayant reçu le client suivant que je me suis rendu compte que j'avais oublié de lui donner ses 50 euros. Mmh. En fait, vouloir donner, alors c'est facile de donner 50 euros, 50 francs, bon, ça soigne tout de suite, ça lui permet de manger. Mais en réalité, finalement, si j'étais rentrée dans donner les 50 euros, c'était le truc facile, c'était ma projection qu'il aurait besoin de manger. Effectivement, c'est un besoin primaire. Mais finalement, cet homme, il avait beaucoup plus besoin d'une présence habitée. Il avait besoin d'avoir un regard, que quelqu'un le regarde. Quelqu'un écoute son histoire et vibre à son histoire sans commentaire. J'ai absolument pas commenté son histoire. Et juste ça, c'est comme si ça lui avait donné la force pour repartir à son histoire et en faire autre chose. Je trouve que c'est un bel exemple de comment, en fait, les choses se transforment. Pas forcément en voulant les réparer, ce qui est la tentation de plein de thérapeutes, mais en laissant la personne libre d'elle-même, libre de ses demandes et de ses choix et de la manière dont elle va habiter sa propre vie.
Est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est la définition de l'empathie au fond, Séverine Bourguignon? Le monde souffre du manque d'empathie générale, peut-être. Enfin, désolée, ça tombe toujours sur vous, ces questions de généralité. Non, mais dans la rue, c'est vrai que...
C'est vrai que ce n'est pas ma vision du monde. Par exemple, dans le quartier dans lequel je vis, qui est le quartier de la Goutte d'Or à Paris, qui est un quartier social très difficile, moi, j'aime ce quartier. En tout cas, si j'avais dû choisir, mon conjoint y était déjà, donc je suis arrivée dans ce quartier comme ça, je n'aurais pas forcément choisi ce quartier. Et maintenant que j'y suis, ce que j'aime, c'est ça, c'est cette empathie. C'est-à-dire que les gens se connaissent, il y a comme une vie de village. On est avec les autres.
Ça existe encore, chouette. Hein.
Voilà, ça, c'est ça. Et c'est vrai que c'est un peu redonner ce que je reçois que de faire aussi les écouteurs de rue. C'est de dire, oui, ben, moi j'y crois et je rencontre tous les jours des gens qui me donnent envie d'y croire. Au fait que ça existe, que c'est quelque chose. Moi j'ai l'impression que c'est une ressource qu'a l'être humain. Et effectivement, par un conditionnement social, parce qu'on est écrasé de performance, de productivité, de normes, on s'empêche aussi de ressentir les choses, d'aller vers, parce qu'on a parlé d'agressivité, c'est l'agressivité saine au sens de agresserer, aller vers
Aller vers le monde.
Voilà, c'est pas négatif. Voilà, c'est aller vers le monde, aller à la rencontre, justement faire l'expérience, essayer les choses avant d'être tout de suite refermé et replié sur soi. Parce que moi, ce que je ressens plutôt, c'est de l'isolement que du manque d'empathie. Mmh. Ouais.
Eh bien, je vous propose de poursuivre cet échange juste après quelques notes de musique.
Radio Notre-Dame.
J'ai tout donné au travail, et quand arrive la nuit, il me reste dans un grand ciel les étoiles. Dans les ruisseaux, je vois flotter des brins de paille, emportés loin par la vie, comme des amants que séparent les étoiles. Sincérité, c'est le nom que je voudrais te donner. Sincérité, c'est le nom que je voudrais nous donner. Dans les ruisseaux, je vois flotter des brins de paille, emportés loin par la vie, comme des amants que séparent les étoiles. Dans la journée, j'ai tout perdu au travail, puis je reviens dans ta vie. Nous reste dans un grand ciel les étoiles. Sincérité, c'est le nom que je voudrais te donner. Sincérité, c'est le nom que je voudrais nous donner. Dans la journée, j'ai tout perdu au travail, puis je reviens dans ta vie. Dans un grand ciel, les étoiles. Je voudrais bien un jour tout te donner, tous les jours, toutes les nuits, les rêves et les merveilles des étoiles. Sincérité, c'est le nom que je voudrais te donner. Sincérité, c'est le nom que je voudrais nous donner. Dans la journée, j'ai tout donné au travail, et quand arrive la nuit, il me reste dans un grand ciel les étoiles. Sincérité, c'est bien tout ce que je peux te donner. Sincérité, c'est le nom que je voudrais te donner. Tout ce que je peux te donner.
Voilà pour Richard Cocciante, sincérité de la sincérité, d'ailleurs dans les cabinets, aujourd'hui en tout cas au programme avec la psychologie qui sort dans la rue. Chantal Masquelier, justement à la pause, vous évoquiez ce retour, enfin la psychologie sort dans la rue, mais la rue vient au cabinet aussi.
Exactement. C'est dans les deux sens. Si les gestalt-thérapeutes sont capables de descendre dans la rue, je pense que dans le cabinet, la rue vient à nous. Et que le patient ou le client qui arrive n'est pas coupé du monde environnant et que sa problématique est reliée au monde environnant et notamment aux pressions environnementales. On voit de plus en plus de gens qui se sentent inadéquats dans ce monde, qui se sentent inadaptés et qui sont dans ce souci de performance, de réussite, qui vient beaucoup des pressions économiques. Et si le thérapeute accentue cette condition d'échec ou d'insuffisance, on met le patient dans la honte et dans la culpabilité. La posture du gestalt-thérapeute, c'est au contraire de pouvoir relativiser et que le patient puisse sentir qu'il n'est pas le seul coupable ou le seul auteur de ce qui est en train de se passer et que ça se produit dans son environnement. Et que notre société produit ce sentiment d'insuffisance. Il y a même un sociologue, Ehrenberg, qui parle de la fatigue d'être soi. Et ça, c'est la société qui le produit, c'est pas l'individu tout seul. Et ça, je pense que c'est vraiment une posture très différente du gestalt-thérapeute par rapport à la posture classique de la psychanalyse qui va renforcer quelque chose de l'histoire passée et de l'histoire familiale. Mmh. Nous, on place les choses dans un environnement social, si bien que la rue ou la société arrive dans notre cabinet.
Cette fatigue d'être soi, Yolande Dufay et de la Tour, on parlait du burn-out également pendant ces quelques notes de musique. C'est quelque chose qui est très difficile à résoudre au fond aussi aujourd'hui, où on nous enjoint effectivement d'être très performant dans la famille, le boulot, tout.
Oui. Alors ça m'amène à parler effectivement de l'entreprise où c'est particulièrement vrai, où il y a des évaluations permanentes, où les gens sont sous pression, sous le regard de leurs collègues, avec les fameux chiffres en fin de mois pour les commerciaux, avec les entretiens d'évaluation de fin d'année, parfois plusieurs fois dans l'année. Et donc du coup, d'être tout le temps sous le regard de l'autre, il y a une tendance à l'intériorisation des normes, des besoins des autres, et en l'occurrence de la structure.
Et nous, l'intériorisation des besoins des autres.
C'est-à-dire que si l'entreprise a besoin que vous travailliez pour tel projet et qu'il va falloir y passer 12 heures de votre journée, et du coup que vous allez devoir d'abord faire passer ces besoins-là avant le fait que peut-être vous avez vos enfants qui vous attendent pour faire les devoirs de l'école, donc ça va être très difficile de faire des choix. Donc c'est... On va vraiment, en gestalt-thérapie, travailler la co-responsabilité et la notion du choix. Comment je choisis? Qu'est-ce que je choisis? Quels sont mes besoins? Quels sont mes désirs aussi? Et on va travailler sur l'éthique. Où sont les limites? Et personnellement, je trouve qu'aujourd'hui, la société dans laquelle on est, quand on voit le nombre de pathologies type pervers narcissique, quand on voit le nombre de burn-out, etc., oui, ça pose en permanence la question du cadre et la question de l'éthique relationnelle. Et je pense que nous, gestalt-thérapeutes, on est plutôt bien, on va dire, équipés sur le plan, on va dire, conceptuel du fait de notre corpus théorique. On est bien équipés pour aller travailler cette notion de la co-responsabilité.
En groupe, notamment?
Alors, notamment en groupe, et l'entreprise est un groupe, donc... Là où on va essayer, on va remettre du groupe, on va remettre du lien, c'est-à-dire qu'on va aider le patient ou le client. Par exemple, si je suis coach, ça va être un client, oui, plutôt qu'un patient. Et donc, de se remettre en lien pour trouver de l'appui, ce qu'on appelle l'appui dans son environnement, pour lutter contre l'angoisse, les fameuses attaques de panique, on en a de plus en plus en entreprise. Il y a des gens, donc, du coup, il y a un phénomène addictif, hein, des gens qui sont sous-produits de plus en plus en entreprise pour être performants. Et donc, on va essayer de remettre ces personnes-là en contact avec leur environnement. Leur environnement, c'est leurs collègues, c'est le groupe, c'est leur chef, c'est leur N plus 1, 2, comme on dit. Et donc, voir ce d'en dessous aussi, comment je délègue. Et donc, on va vraiment travailler cette co-responsabilité des différents acteurs du groupe. Ça, c'est une des choses. Et puis, on va travailler en groupe. C'est un des aspects spécifiques. Enfin, il y a d'autres approches qui travaillent en groupe, mais il y a beaucoup de gestalt-thérapeutes qui ont fait leur formation en groupe, qui ont travaillé sur les phénomènes de groupe. Et donc, du coup, on a un recul. Toute notre formation a été faite en groupe et on travaille beaucoup sur cette notion. Donc, on a soi-même travaillé notre propre rapport au groupe. Et normalement, on doit avoir à peu près identifié quelles sont nos propres ressources, comment on peut les mettre au service du patient et comment le client ou le patient peut trouver lui-même ses propres ressources dans le groupe, avec le groupe et pour le groupe.
C'est-à-dire qu'il y a aussi un effet miroir avec les autres personnes du groupe, pas forcément seulement avec le thérapeute. Alors je m'adresse à vous, après je vais réagir, ça va une bonne.
Oui, le groupe permet d'expérimenter ce lien social. Exister dans un groupe, comment je me débrouille avec les autres et pour exister sous le regard des autres. Donc ça peut amplifier certains mal-être justement liés à l'être avec, être avec les autres. Et donc ça, c'est de là pour chacun. Ouais. Et puis aussi, le regard des autres peut servir de caisse de résonance. Je parlais de caisse de résonance du thérapeute, mais il y a aussi la caisse de résonance du groupe qui est très, très utile. En fait, on travaille beaucoup sur cette frontière contact entre soi et les autres. Et donc, cette frontière contact est très, est accrue dans un groupe. Et on travaille beaucoup cette mobilisation de ce qui se passe à la frontière contact. Et le groupe est un lieu privilégié pour expérimenter ces situations.
La fatigue d'être soi dans la rue également, j'imagine, Séverine Bourguignon, pour revenir un petit peu à la question initiale. Par l'art thérapeute aussi que vous êtes, que vous pouvez donner un autre angle d'approche et puis de soins peut-être aussi.
Alors dans la rue,
même si c'est bref,
on va faire, on privilégie quand même l'écoute parce qu'il y a beaucoup beaucoup de mouvements autour. Donc proposer en plus un autre type d'expérimentation. En plus, on ne connaît pas la personne, donc on découvre la personne. Donc c'est vrai qu'il y a cette présence et cette attention qui est là parce qu'il y a l'attention à la personne qui est présente. Et puis il y a quand même le mouvement autour qui reste conscient. On est à la fois en écoute individuel, mais en même temps, on est quand même en groupe du fait qu'il y a les autres autour. C'est-à-dire que là, quand on est 6 thérapeutes côte à côte avec 6 écoutés, on est 12 personnes ensemble, plus les gens qui circulent autour, qui s'arrêtent, qui regardent, qu'on oublie. Donc c'est vrai que proposer d'autres choses, c'est déjà énorme ce qui est en train de se passer. Cette histoire d'hyperactivité, c'est vrai qu'on essaie, l'idée c'est plutôt de ralentir et d'écouter. On peut, par contre, oui, on reçoit, on écoute des gens qui peuvent être fatigués, là, qui ont des choses à dire, qui ne peuvent pas dire dans leur famille parce que c'est trop lourd, parce que déjà, les autres gens sont très fatigués. Une maladie, un problème de boulot, mais on en a déjà parlé tellement à sa famille qui est elle-même épuisée en se levant tôt, ou en ayant ces problématiques. La fatigue d'être soi, c'est plutôt les gens qui s'asseyent qui peuvent venir avec ce type de problématique.
Il y a des personnes qui fondent en larmes après une séance dans la rue.
Alors ça, c'est les peurs quand on présente le projet. Pour l'instant, il n'y a pas eu de larmes. Les gens repartent plutôt en étant plus avec de l'énergie, en étant souriants, apaisés. C'est plus comme ça que ça se passe. Par contre, quand on présente le projet, il y a tout de suite une première intention qui est de dire « Ah, c'est super, il y a vraiment un besoin ». La deuxième intention, ce sont les peurs. Parce qu'on explose tous les cadres thérapeutiques qui sont posés. D'ailleurs, moi, j'ai eu des réactions de gens qui disaient « Oui, mais qu'est-ce que vous faites ? C'est très dangereux. »
aussi.
Voilà, la confidentialité. Or, on reçoit les gens le temps qu'ils le souhaitent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps. Ils peuvent s'asseoir 30 secondes. Non, c'est avec le thérapeute, en tout cas avec l'écoutant, que ça se passe. On est vraiment là dans quelque chose qui est de l'ordre de l'émergence. C'est aussi très gestaltiste. On laisse quelque chose émerger et une fois que le temps est fini, les deux personnes le sentent. Il n'y a pas besoin de se presser. C'est être à son rythme. Et c'est très, très important aussi d'être au rythme de l'autre qui, s'il est fatigué, a besoin qu'on s'adapte aussi.
Alors, pardonnez-moi de vous poser cette question, mais vous intervenez aussi ? Enfin, vous parlez, vous répondez à la personne, parce que vous l'écoutez, mais vous parlez aussi.
Bien sûr, oui, tout à fait. C'est très différent.
C'est un échange.
C'est vraiment unique à chaque personne, parce que c'est la curiosité de dire, oui, mais comment vous faites ? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous dites ? Mais il n'y a rien besoin de dire. On reçoit l'autre, on dit bonjour, et... pour reposer un cadre, par exemple, on s'est tous dit, tous les thérapeutes qui étaient là, qu'on n'allait pas se présenter ou demander à l'autre de se présenter. Comme ça, ça reste confidentiel, par exemple. Donc ça repose un nouveau cadre qui n'existe pas forcément systématiquement dans un cabinet. Et puis, on laisse, on dit aux gens, en parlant de la pluie et du beau temps, qu'est-ce qui vous a fait venir ? Alors, on peut aider la personne à parler, mais la personne va le faire spontanément. Et puis, on laisse venir, on ressent ce que ça nous fait. Nous, on peut ressentir une émotion parce qu'il y a quand même eu des témoignages. Dans ce quartier de la Goutte d'Or, il y a beaucoup de personnes qui sont immigrées. Et il y a eu beaucoup de témoignages de tortures, de viols, de meurtres. Donc il y a ça aussi où nous, par contre, on peut se laisser impacter et dire ce que ça nous fait en tant qu'écoutant. Voilà, c'est vrai que ça, c'est plutôt nous qui allons vibrer, qui pouvons nous laisser, comme disait Yolande tout à l'heure, nous laisser montrer notre émotion ou dire que ça nous met en colère ou dire notre impuissance. Voilà, c'est plus comme ça. Donc la personne en face va être plus neutre que nous, qui nous permettons de vibrer, d'être les tambours aussi pour nous écouter.
Alors, je vous évoquais cette idée d'empathie. Vous me faites penser à cette, effectivement, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cela, ces écoles d'empathie qui naissent, je crois, dans les pays scandinaves, je ne sais plus lequel. Yolande Dufayet de la Tour, qu'est-ce que ça vous inspire, justement? On a un mal fou avec cette histoire d'empathie aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que ça?
C'est un travail d'humanité. Alors, je pense que tous les psys, quels qu'ils soient, c'est quand même ça qui les mobilise. Être un humain face à un autre humain et en cela, lui permettre d'être encore plus humain. S'il y avait un projet pour l'autre ou une visée, c'est d'être humain ensemble. Donc, on repart dans soi et l'environnement. C'est-à-dire, on est mobilisé. Alors, l'empathie, on ne parle pas spécialement d'empathie dans la Gestalt thérapie. On est plutôt sur l'idée de la sympathie. Je vais vous épargner les différences techniques. Peut-être Chantal, notre spécialiste, en parlera. Mais l'idée, c'est vraiment, moi, je préfère dire cette présence habitée. Alors, elle se développe de plus en plus à l'école et dans les écoles, même en France. Parce que c'est tout simplement s'éprouver comme humain, comme personne face à l'autre. Et ça, c'est là où on va travailler sur sortir des rôles. Et on a une notion qui est l'authenticité. Et l'authenticité, c'est quoi? C'est être soi-même en dehors des rôles. C'est-à-dire qui je suis, et donc l'espace thérapeutique ou l'espace, par exemple, que Séverine décrit dans la rue, c'est ouvrir un temps et un lieu pour se dire hors du rôle. Hors du « je suis mère de famille », hors de « je suis chômeur », hors de « je suis chef d'entreprise » ou « je suis cadre » ou « je suis femme de ménage » ou « éboueur ». C'est-à-dire je sors des rôles dans lesquels on m'assigne, ou je m'assigne d'ailleurs, ou la famille m'assigne. Et donc, je prends une place d'humain parmi les humains. C'est vraiment ça qu'on va travailler. En tout cas, moi, c'est ce que j'aime faire.
C'est difficile, Chantal, de quitter son rôle, justement, j'allais vous demander, mais vous souhaitiez d'abord réagir.
Oui, il peut y avoir un leurre dans l'empathie qui serait de croire qu'on peut penser à la place de l'autre ou éprouver à la place de l'autre. On ne peut jamais se mettre à la place de l'autre. On ne peut que ressentir ce qui se passe pour nous à l'occasion de la rencontre avec l'autre. D'ouvrir cette dimension chez nous, c'est un apprentissage. Et effectivement, en gestalt-thérapie, on parlera plutôt de sympathie, c'est-à-dire d'être avec, le soum, le sein, plutôt que d'être à la place de l'autre, ce qui est un leurre. Et donc, vous me posiez une autre question.
Oui, parce que Yolande de Fayet de la Tour nous évoquait justement le fait de quitter sa chape, enfin en tout cas son rôle de la société.
De se dérouler.
Voilà, c'est ça, se dérouler, comme vous dites. J'aurais pas osé. Donc, c'est difficile de se dérouler.
Je pense que c'est ça toute la formation qu'on fait pour devenir gestalt-thérapeute ou pour devenir thérapeute, parce que je pense que dans d'autres approches, il y a cette même quête d'ouvrir chez soi des espaces qui ne sont pas habituels et qui sont de l'ordre du ressenti, de l'éprouver, des sensations dans le contact avec l'environnement. Et plutôt que d'être, comme tu le disais Yolande, assignée à un rôle ou à une fonction.
Eh bien, bravo, dis donc, vous terminez l'émission à la seconde près. Merci Chantal Masquelé. Peut-être une conclusion juste rapide pour terminer, Yolande Dufayet de la Tour. On peut vous retrouver, vous, chez Arborescence.
Oui, mon cabinet sur Arborescence à Boulogne-Billancourt. Et puis on peut me retrouver à la Maison des Familles de Boulogne.
Absolument, pour nos petits Parisiens qui nous écouteraient ce matin. Séverine Bourguignon, dans la rue ?
Dans la rue, le 22 juin, pour la fête de la Goutte d'Or. Tout à
c'est
fait.
C'est noté, à Paris. Et puis Chantal Masquelier, dans vos ouvrages, on
voilà,
retrouve.
Dans mes ouvrages, et il y en a plusieurs en cours.
Et notamment, le Que sais-je, qu'on peut peut-être citer aujourd'hui dans cette émission. Voilà, la gestalt-thérapie, tout simplement, aux éditions Que sais-je, que l'on connaît, évidemment, depuis plusieurs décennies maintenant, et qui continue d'ailleurs de publier. Voilà, il faut le savoir, il n'y a pas qu'Internet dans la vie. Merci à vous trois.
Merci.
Merci à vous. Et à très bientôt.
À bientôt. Au revoir.
Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotredame.com.
La philosophie peut-elle aider à vivre ? Eh bien, ce sera la question que nous poserons à nos invités et que l'on se posera demain dans Quête de sens.